L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Gaëtan Rohr, Philippe Subercaz.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette heure de pointe. Quel plaisir de retrouver Gaëtan Rohr qui m'avait fait quelques infidélités la dernière fois, mais j'avais quand même le grand patron de la Dépêche, ça me fait plaisir, Arnaud Paul qui était là. Bonjour Gaëtan.
Bonjour.
Nous accueillons aujourd'hui Madame Marion Olivier. Marion est votre prénom, vous l'avez dit, et Olivier votre nom de famille. Vous êtes chargée de la maison, entre autres, et des saisonniers à l'UDAF des Hautes-Pyrénées. Alors l'UDAF, beaucoup de gens doivent connaître, mais qu'est-ce que c'est exactement que l'UDAF ?
Alors bonjour. Alors l'Union des associations familiales des Hautes-Pyrénées, on existe depuis 1945. On est inscrit dans le code de l'action sociale et des familles. Et effectivement, on a un rôle d'être là pour observer et avoir le pouls des familles. Et on remonte toutes ces informations au niveau national. Donc on est structuré en réseau régional, national. Effectivement, on a l'écoute de l'État et des ministères sur la question de la situation des familles. Donc on a aussi un observatoire qui nous permet de pouvoir remonter le pouls de ces familles et de pouvoir effectivement avoir ce rôle de plaidoyer auprès des familles. D'accord ? Et dans chaque UDAF, il y a des services qui sont développés, qui peuvent être différents d'un UDAF à l'autre, d'un territoire ou d'un département à l'autre, et qui sont des services aux familles qui sont mis en œuvre en fonction des besoins du territoire. On représente les familles parce qu'on a des adhérents, Union des associations familiales, on a un certain nombre d'adhérents, on représente plus de 3000 adhérents aujourd'hui, bénévoles, qui sont des différentes associations qui adhèrent, les 49 associations qui adhèrent à notre association départementale et qu'on accompagne dans leurs projets. Et on a effectivement différents services qu'on développe sur les territoires en fonction des besoins des territoires. Donc on a sur le département du 65 de la protection juridique des majeurs, ça c'est des choses qu'on fait dans beaucoup d'UDAF, donc tutelle, curatelle, pour les personnes vulnérables. Et on a aussi, nous, un service logement accompagné. Donc on a des maisons relais, un hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile. On fait de l'accompagnement vers et dans le logement, du bail glissant. Donc on a effectivement ce service logement. Et aujourd'hui, et depuis finalement 2021, cette maison du travail saisonnier qui a d'abord été un guichet unique des saisonniers.
Alors, c'est vrai qu'on... Enfin, personnellement, avant de vous connaître à Lourdes pour la maison du travail saisonnier, je connaissais votre travail pour la tutelle, pour la curatelle, pour des microcrédits aussi. Je sais que vous faites ça pour certaines familles. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous tourner, à aider les saisonniers?
Parce que c'était un service aux familles et que c'était effectivement un enjeu important pour le territoire. L'UDAF, il s'inscrit sur un développement territorial aussi. Et à l'époque, le préfet, puisqu'on était en 2020, situation de crise Covid, je ne reviens pas, vous connaissez la situation de Lourdes. Et on nous demande effectivement de mettre d'abord en place ce guichet unique des saisonniers pour rendre service aux familles de saisonniers qui s'étaient retrouvées en grande difficulté. Suite à ce qu'on connaît tous, puisqu'on cochait quand même pas mal de cases à Lourdes, le monde, les personnes fragiles qui étaient regroupées au sein du même endroit. Donc tout s'était arrêté. Et ces familles avaient besoin d'être accompagnées dans leurs différentes démarches d'accès aux aides sociales. Donc effectivement, à l'époque, on demande à l'UDAF, pourquoi ? Parce qu'une association, c'est agile, ça peut faire les choses rapidement, ça peut les mettre facilement et rapidement en place. Donc à l'époque, la préfecture et les services de l'État nous demandent de mettre en place ce guichet unique pour accompagner, main dans la main, j'allais dire, ces familles de saisonniers à minimiser les problématiques liées à l'arrêt de leur travail et de pouvoir enclencher les différentes aides. Voilà.
On a pu croire, en parlant de ce guichet unique, que l'UDAF, vous aviez remplacé à un moment les droits, par exemple le droit chômage, et ce n'était pas le cas.
Non, nous on était vraiment là pour accompagner, sécuriser les démarches, les faire avec les personnes, les rassurer, parce que les saisonniers étaient quand même des personnes, et sont toujours, j'allais dire, parce qu'on les connaît, on les rend, pour les côtoyer régulièrement, sont des personnes qui ont du mal à demander de l'aide. Et à l'époque, c'était ça aussi. Et à connaître à quelles aides ils ont accès. Et on continue à le faire, ça, au quotidien. C'est-à-dire qu'on continue à informer les saisonniers sur quels sont les droits que je peux avoir, comment je dois faire attention à ma question de santé, comment je dois faire attention, comment je peux activer une prime d'activité. Enfin, on continue vraiment à accompagner aussi ces personnes qui sont parfois en difficulté à connaître, mais j'allais dire, c'est pas les seuls, à pouvoir se dépatouiller de tout l'ensemble des démarches administratives et de pouvoir les aider à bien connaître et à faire valoir leurs droits.
Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'effectivement, vous êtes une association, vous êtes des fois plus agile et vous êtes plus dans la réaction. On a pourtant l'impression que c'est un travail que devrait faire France Travail.
Alors, on travaille avec eux. Oui. On était là pour justement avoir l'agilité de faire ce qu'ils peuvent pas forcément faire institutionnellement. Donc, on est aujourd'hui en partenariat plein et entier et on s'inscrit pleinement, puisque le France Travail de demain, ce sera aussi un réseau d'acteurs, ce qu'on appelle le réseau pour l'emploi sur les territoires. Donc, ce réseau, il se constitue aussi de tous ceux qui œuvrent autour de l'emploi. Et nous, on œuvre aussi autour de l'emploi.
Oui, parce que d'une mission de préfiguration, d'un guichet unique, vous vous êtes peu à peu transformé, vous dites, en plateforme d'orientation des saisonniers avec de multiples services, en fait.
C'est ça.
Il n'y a plus uniquement l'accès au droit aujourd'hui.
Voilà. Effectivement, initialement, ce guichet unique, forcément, entre-temps, la reprise est là, fort heureusement. On connaît une bonne reprise avec une année 2023 qui vient de passer, qui est plutôt bonne sur la situation de la saison lourdaise, notamment. Alors, sur la saison montagnarde, c'est un peu plus compliqué cet hiver. Effectivement, on nous a demandé à un moment, le guichet unique, il avait fait son temps, les familles avaient repris le travail. Par contre, il fallait effectivement répondre à la problématique qui était nouvelle, c'est-à-dire une défection d'un certain nombre de saisonniers de la saison, un manque de saisonniers. La crise Covid était passée par là et on avait beaucoup de saisonniers qui avaient profité de ce temps pour changer aussi d'activité professionnelle, puisque à défaut de pouvoir travailler dans la saison, ils étaient partis ailleurs. Donc effectivement, l'enjeu, c'était de pouvoir offrir un service qui permette à la fois de faire venir les saisonniers d'ailleurs, j'allais dire, et de permettre la facilitation de ces saisonniers quand ils arrivent sur le territoire, d'identifier un lieu où ils vont trouver une information dédiée, des ressources et une facilitation d'accès à ces informations, et effectivement travailler sur des enjeux au plus long cours. La question du logement, qui aujourd'hui est une problématique importante sur notre territoire pour accueillir ou sécuriser les familles. La question de l'accès aux droits, ça c'est toujours important. La santé, la fidélisation, la montée en compétences des salariés pour leur permettre notamment d'allonger leur durée de travail, puisqu'avec la modification des règles d'indemnisation chômage, il y a aussi tout un enjeu aujourd'hui sur la possibilité d'accompagner ces personnes à pouvoir travailler sur plusieurs saisons ou dans plusieurs activités. Voilà.
On peut dire quand même que ce département vit largement, bien sûr, du tourisme. Et donc, en ce qui concerne Lourdes, une saison assez importante, assez longue, de Pâques jusqu'à fin octobre. Et puis, les stations de ski, quand il y a de la neige, un peu pendant les vacances de Noël, beaucoup, on espère que la neige va tomber pour les vacances de février. Et puis, à peu près jusqu'à Pâques, jusqu'à la fin, effectivement. Eux aussi réfléchissent, parce que je crois qu'un de vos travaux, c'est vraiment d'essayer l'allongement des saisons. On parle de plus en plus, et on était avec le groupe NPI il n'y a pas longtemps, des quatre saisons au niveau de la montagne, essayer qu'on consomme la montagne, non pas effectivement que pour faire de la glisse, mais aussi toute l'année. On peut faire des balades, des randonnées, enfin, il y a beaucoup d'activités qui sont en train d'être développées. Et la saisonnalité aussi au niveau de Lourdes, avec peut-être un allongement de la saison, voire, ça c'est un rêve, une annualisation qui permettrait que les hôtels restent ouverts toute l'année, et peut-être même une passerelle entre Lourdes et les stations de ski, peut-être, puisqu'on est quand même la deuxième ou troisième ville hôtelière de France. Ça fait un peu drôle d'avoir autant d'hôtels, de chambres disponibles, et l'hiver c'est fermé, quoi.
Effectivement, c'est effectivement des travaux qui sont en cours avec un enjeu fort sur la... Parce que effectivement, et ça c'est l'enjeu pour l'UDAF, et parce qu'on est service aux familles, se dire que si on veut 34% du poids économique du territoire, vous disiez, le tourisme aujourd'hui,
34%
des Hautes-Pyrénées, c'est 34%.
Oui, c'est ce que nous disait le François-Xavier Brunet, un tiers.
C'est ça.
C'est un tiers, c'est le tourisme. Tiers l'industrie, et puis après la consommation des ménages qui vivent sur le territoire.
C'est ça, et donc c'est effectivement un certain poids. Donc et comment on capitalise sur le tourisme, comment effectivement on permet la pluriactivité, on réinvente rien, c'est-à-dire que dans les montagnes, quand on faisait pas de ski, on s'occupait de son troupeau, etc. Il y a aussi ça, il y a la capacité,
oui.
Il y a les gens qu'on va effectivement réussir à faire travailler toute l'année parce qu'on est en diversification. La station d'Otakam le fait aujourd'hui avec un projet de travailler sur des CDI annualisés avec lesquels on travaille. C'est aussi pour ça qu'il y a un groupement d'employeurs, le GELPIVA, qui est créé depuis, en même temps que nous, pour travailler sur la possibilité pour les entreprises qui ne peuvent pas salarier des personnes à l'année de s'appuyer sur le groupement d'employeurs pour pouvoir le faire. Donc effectivement, c'est l'enjeu aujourd'hui de pouvoir permettre à ces saisonniers de vivre et de s'installer sur nos territoires, parce qu'on va leur proposer une activité tout au long de l'année qui est sûre et qui ne sera pas précaire.
Et donc, l'autre outil pour justement fidéliser cette population de saisonniers, c'est la montée en compétences, la formation, et là aussi, vous agissez là-dessus.
C'est ça. L'idée, c'est effectivement d'accompagner les parcours de formation, de pouvoir consolider ces parcours. Donc, en ce moment, on travaille notamment avec les employeurs de la vallée sur identifier quelles pourraient être les formations qui leur permettraient de salarier les gens de plus régulièrement ou quels pourraient être leurs besoins de montée en compétences pour qu'on puisse apporter finalement des solutions un peu innovantes. Donc, on travaille ça avec la communauté de communes pour permettre finalement à un salarié multicompétent de se positionner peut-être sur la saison d'hiver, mais de travailler en tant que cordiste le reste de l'année. Enfin voilà, d'avoir effectivement un portefeuille de compétences qui va le permettre de s'installer sur le territoire parce qu'il va pouvoir se positionner sur les emplois proposés sur la vallée.
On va parler dans un instant, effectivement, de toutes ces problématiques qu'on peut rencontrer, que les saisonniers peuvent rencontrer, comme par exemple les coupures. Le logement est un vrai frein et on va en parler. Merci à vous, Marion Olivier. Vous êtes donc en charge de la maison des saisonniers à Lourdes. On va en parler. On va prendre un petit peu la machine à remonter le temps. On va se retrouver en mars 2020. En mars 2020, une saison s'annonce plutôt bonne, voire même excellente. Et puis le Covid arrive. Et là, tout est fermé. La France s'arrête au niveau national, international. On vit quelque chose d'incroyable et de jamais vu, une pandémie comme ça. Et là, la problématique qu'ont rencontré les saisonniers, c'est que, ils n'ont pas pu intégrer leur emploi, puisque c'est arrivé avant même que la saison débute. Et là, gros problème à Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette maison des saisonniers, qu'ont fait les saisonniers, où il y a une grande défiance envers les institutions ?
À l'époque, oui, on est en fin d'année 2020, donc il s'est déjà écoulé plusieurs mois. Les gens n'ont pas pu démarrer la saison lourdaise, effectivement, et sont en difficulté. Il y a une association qui s'est créée de saisonniers qui leur permet notamment, il y a des colis qui sont mis en œuvre. Et on
Quelles
a...
sont vraiment les difficultés que rencontrent les saisonniers ?
Alors,
pour les gens qui sont un petit peu éloignés de ça, c'est-à-dire que n'ayant pas pu intégrer leur emploi, ils étaient sur des jours de chômage acquis, depuis certains peu ou d'autres beaucoup. N'ayant pas embauché, ils sont toujours sur ces droits acquis et donc chaque jour qui passe est un jour décompté de leurs droits.
Oui, et après c'est surtout le niveau de revenu qui n'est pas le même entre saison et indemnisation chômage. Donc on peut avoir un niveau de vie ou des enjeux, des factures à payer qui ne sont pas au niveau de ce qu'on perçoit parce qu'on avait misé sur le redémarrage de la saison. Donc effectivement, l'idée, ça va être, quand on va ouvrir le guichet en suivant, ça va être d'accompagner finalement les difficultés. Alors on le fait déjà parce qu'on a un point conseil budget par exemple à l'UDAF où on accompagne la famille à pouvoir équilibrer les choses quand on a une baisse de revenus ou des difficultés. Voilà, mais on le fait dans le sens de la famille ou pour la famille. C'est pas un accompagnement social traditionnel. Dans l'intérêt des familles, on peut... C'est un guichet ouvert aussi, d'ailleurs, qui existe toujours et qui est sur Lourdes, où une personne qui a des difficultés à la gestion de son budget, on va l'accompagner. Ce qu'on a fait aussi, c'est-à-dire, effectivement, d'accompagner des personnes qui pouvaient avoir besoin d'être accompagnées sur du surendettement, de faire une demande qu'ils n'avaient peut-être jamais faite parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, encore une fois, de faire et de demander de l'aide. Ça, c'était la spécificité. Donc, il fallait effectivement les aider et ils n'avaient pas l'habitude de s'adresser aux institutions. Et quelque part, ils étaient un peu en défiance parce que la saison n'avait pas démarré. Tous n'étaient pas forcément, avaient pu bénéficier de chômage partiel. Donc, voilà, il y avait un peu une colère, j'imagine, de ce qui s'était passé. Donc, l'idée, c'était aussi de renouer la confiance et le dialogue avec ces personnes en montrant que les institutions étaient là pour les accompagner, qu'il y avait des aides qui vous pouvaient mobiliser et qu'on allait pouvoir minimiser effectivement l'effet du Covid sur leur situation familiale.
Et lors de cette période, vous avez accompagné combien de personnes ?
Alors, le temps de la mise en œuvre, parce que c'est décidé à la fin de l'année 2020, on démarre en 2021 avec un financement qui est sur le plan de lutte contre la pauvreté, on a 80 familles qui vont être accompagnées. Effectivement des besoins qui peuvent être très différenciés, sur plusieurs démarches en même temps. Enfin, voilà. Et ce travailleur social qui va être là à l'écoute, qui sera installé à la Maison France Service de Lourdes à l'époque, et qui va être là toute la semaine avec des permanences ouvertes sans rendez-vous verrou, va pouvoir accueillir les personnes et accompagner main dans la main les différentes démarches qui vont leur permettre effectivement de solutionner des problématiques. Alors, ça n'empêchera pas certains de quitter, enfin de reprendre un travail. Voilà ce que vous expliquez, c'est-à-dire l'enjeu de pouvoir vivre et de manger, du coup, ça fait que beaucoup de gens, à l'époque, ont quitté finalement la saison parce qu'il fallait aller travailler pour pouvoir, effectivement, débloquer un revenu.
Et alors, sur ces 80 personnes, c'est des personnes que vous avez réussi à faire rester à Lourdes, du coup
Alors, généralement, c'est des personnes, effectivement, qui étaient dans un projet de rester. Et c'est aussi ce qu'on a constaté, c'est-à-dire que ceux qui pouvaient et qui avaient les moyens de partir ont pu quitter la saison, et certains sont restés parce que l'âge, la construction familiale, les enjeux, peut-être les contraintes qui étaient les leurs, ils ne pouvaient pas envisager de partir, ou en tout cas de changer de métier, ou de partir travailler à Tarbes. Voilà, donc effectivement, l'objectif, c'était aussi de permettre à ces familles de pouvoir rester sur le territoire et d'être accompagnées à pouvoir consolider leur présence et en attendant la reprise de la saison qui finalement est revenue fort heureusement assez rapidement. Alors après, ouais. Avec une année 2022 en demi-teinte et puis une bonne année 2023.
Vous me disiez que 400 emplois n'avaient pas été pourvus la saison dernière, en 2023. 400 emplois sur Lourdes ou sur
Lourdes.
Sur Lourdes. 400 emplois. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, alors il y a eu un avant et un après-Covid, hein, qu'est-ce qui justifie? On sait qu'au niveau national aussi, tout ce qui est hôtel, restauration, ont du mal à recruter. Ce sont des métiers durs, peu rémunérés, avec des horaires qui sont... Voilà, un des freins, vous me disiez, c'est ce qu'on appelle la coupure. Hein. On travaille un peu le matin, on travaille des fois un petit peu entre midi et deux, on travaille le soir, les week-ends. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne veulent plus ça. Quoi.
Oui. Ils veulent plus ça, et puis ils ont goûté à autre chose pendant le Covid, mais c'est surtout qu'effectivement, alors même s'il y a eu des efforts de fait hein, sur les évolutions salariales, la branche professionnelle, enfin voilà, a fait des efforts, il y a eu des augmentations de salaire, on voit aussi aujourd'hui, mais ça reste, voilà, des emplois qui sont peu qualifiés, donc forcément des, et avec des contraintes horaires, des, alors mais il y a tout un travail, effectivement, à avancer, et ça, l'hôtellerie, la restauration le fait, hein, les syndicats employeurs travaillent, que ce soit le GHR, l'UMI sur ces questions-là, c'est comment effectivement, on commence à parler de qualité de vie et de conditions de travail, comment on arrive effectivement à donner des jours, enfin voilà, on le voit hein, dans les annonces aujourd'hui, quand on regarde les annonces de recrutement sur la saison lourdaise, certains employeurs font valoir effectivement la question de pouvoir prendre une semaine de congé pendant les périodes estivales, enfin voilà, c'est effectivement aussi comment on fait avancer sur la... comment on fait levier sur les conditions de travail aujourd'hui, parce que le recrutement, il est aussi lié à ça. Et puis après, c'est la main-d'œuvre disponible aussi. Aujourd'hui, quand on en échange avec France Travail, aujourd'hui, dans les demandeurs d'emploi, disponibles immédiatement pour travailler, on n'a pas forcément encore des gens disponibles sur le territoire. Donc, c'est aussi l'enjeu d'aller chercher des gens ailleurs pour pouvoir travailler. On en parlait pour pouvoir les faire venir sur la saison lourdaise.
Vous disiez 400 emplois non pourvus sur 2023. Est-ce que on est à l'aube du début nouvelle saison pour 2024? Est-ce que il y a aussi encore cette inquiétude ou ça a l'air d'aller mieux?
Je pense qu'il y a une inquiétude de la part des employeurs. Parce qu'effectivement, la saison, les trois jours, le fameux 9-12 février va se faire. Il y a des gens qui vont commencer des essais pour pouvoir consolider les emplois ou les embauches pour le mois d'avril. Je pense que ça va rester c'est une pression qui est mise quand même sur les employeurs de pouvoir avoir l'équipe constituée. Et à la veille, j'allais dire, du démarrage, vous pouvez avoir des gens qui ne se présentent pas. Et il faut recruter. Et la main-d'œuvre disponible sur le territoire, elle n'est plus la même qu'effectivement, peut-être il y a quelques années.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de saisonniers qui vont revenir, de nouveaux saisonniers de l'année dernière qui s'engage à revenir sur cette saison.
Ça voudrait dire qu'on fait des études de taux de fidélisation. Alors nous, on y travaille. C'est-à-dire que le rôle qu'on aura aussi et qu'on commence à avoir, c'est un rôle d'observation parce qu'en fait, il n'y a pas d'observation spécifique des saisonniers. On observe des tendances de l'emploi et pas spécifiquement par statut. Donc nous, par exemple, on met en place des enquêtes auprès des employeurs, auprès des saisonniers. On en a une qui va démarrer là, sur notamment là, pour la saison d'hiver, où on va essayer d'avoir un petit peu des choses un peu plus fines sur les projets des saisonniers, sur les besoins des employeurs. Et on espère pouvoir conduire la même chose sur la saison lourdaise. Nous, on a offert officiellement au mois de mai dernier, donc la saison était déjà démarrée, mais l'idée, c'est d'avoir des analyses plus fines pour effectivement pouvoir chiffrer, avoir des tendances, mais c'est difficile, comme je vous le disais, parce que les données sont un peu fluctuantes, hein, entre les typologies de contrats, entre la déclaration d'embauche, on a du mal à avoir des données très facilement consolidées sur les saisonniers. Les derniers chiffres consolidés, on va dire, avec des études, est de 2017, donc avant Covid, donc il faudrait effectivement pouvoir rénover nos infos. Quoi.
Vous me disiez, une des problématiques qu'on vit ici dans ce territoire, et peut-être que le Covid a mis en avant, hein, par rapport à d'autres endroits, comme par exemple les Alpes, c'est que là-bas, ils ont bien compris que les points négatifs, hein, quand on, pour la saisonnalité, c'est le logement et cette fameuse coupure. Et donc, ils y ont travaillé. C'est-à-dire que lorsqu'on propose un emploi saisonnier dans d'autres régions de France, on propose l'emploi, le logement et on essaye de minimiser la coupure, c'est ça ?
Alors, on essaie d'avancer sur la question de qualité de vie, mais ça, c'est global, effectivement. Alors, peut-être on peut le faire plus facilement.
Mais
quand
ils en avancent peut-être ailleurs, en France,
alors,
par rapport à nous, ici ?
Ça dépend. On va dire qu'effectivement, on voit bien que sur la Côte d'Azur, enfin, il y a des choses qui se créent parce qu'ils connaissent la pénurie. Enfin, alors, les Alpes, on va dire, ils ont 20 ans d'avance sur l'exploitation de la montagne et sur la connaissance. Enfin, voilà, c'est aussi ça, hein, sur la saisonnalité montagnarde. Et puis, c'est pas la même typologie. Vous avez des usines en bas. Enfin, voilà, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Toutefois, effectivement, la question du logement aujourd'hui, beaucoup de saisonniers qui pourraient venir d'ailleurs faire d'un autre territoire venir faire la saison à Lourdes, ben, ils ont besoin du logement.
Et vous disiez qu'à Lourdes, on était là, on a des difficultés de trouver des logements pour les saisonniers qui
venaient. Tout à fait. Alors déjà parce qu'un saisonnier, il a du mal à accéder à ce qu'on appelle le parc privé, parce qu'il a un emploi considéré comme précaire. Une agence immobilière, elle va considérer qu'un contrat saisonnier, c'est pas forcément un contrat stable. Hein, voilà. Il y a un manque de logement. C'est-à-dire que la réalité, c'est que sur Lourdes, on sait aussi qu'il y a eu pas mal de logements. Il y a de la vacance, mais sur des logements qui pouvaient être insalubres. Enfin, on sait aussi quelle est la situation lourdaise sur ça. Donc, il y a un manque aussi de logements disponibles. On avait des saisonniers qui se logeaient à l'Ophite. Ben voilà, l'Ophite, le plan NPRU, la destruction de l'Ophite, tout ça. Donc, on a une vraie tension sur le logement et une difficulté aujourd'hui d'accéder à du logement disponible. Donc, effectivement, d'où l'enjeu d'avoir... Et puis, les saisonniers qui vont, peut-être arbitrer, est-ce que je vais à tel endroit ou à tel endroit pour faire ma saison quand ils sont dans cette dynamique de bouger, eh ben, ils vont aller là où on va leur proposer l'emploi et le logement. Voilà.
Et comment vous dites, effectivement, les Pyrénées ont 20 ans de retard sur les Alpes au niveau du logement saisonnier, mais comment on explique que Lourdes ait autant de retard, par exemple, sur le logement saisonnier, l'accompagnement, justement, de cette main-d'œuvre ? Parce que, pour le coup, le fait touristique à Lourdes, lié à Bernadette, ça date... d'il y a plus d'un siècle,
1858.
Ou 1858.
Le début,
donc comment on explique ce retard, en fait ?
Parce qu'on était sur des gens qui étaient là. On était sur des locaux. Ceux qui travaillaient en saison, c'était les gens qui vivaient à Lourdes. Et après, on avait cette main-d'œuvre qui venait, vous savez, d'Espagne, du Portugal, d'Italie, qui venait faire la saison, qui repartait, qui revenait d'une saison sur l'autre et qui s'hébergeait dans les familles. Donc ça, c'est aussi des pratiques qu'on ne revoit plus, parce que c'est des gens... Alors même si on continue à accueillir des saisonniers qui viennent du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie, moins qu'avant. Parce que pareil, Covid, ils sont partis, ils ne sont peut-être pas revenus après, vous voyez. Après, c'est aussi ça qu'il faut envisager. Alors,
à une époque, hein, peut-être que je vais aller à un raccourci, mais en fait, beaucoup de gens, vous disiez, hein, Portugal, Espagnol, Italien, se sont installés effectivement à Lourdes, mais on construit leur famille. Souvent, monsieur travaillait à l'année, voilà, il trouvait un emploi, et madame travaillait à la saison. Et bon an, mal an, entre le travail à l'année et le travail saisonnier, ben ils arrivaient, ils ont construit des maisons. On a des quartiers à Lourdes qui ont été construits par des saisonniers, et entre parenthèses, étrangers, qui se sont complètement intégrés et qui ont aujourd'hui travaillé. Alors c'est vrai que, est-ce que vous avez remarqué quand même que, est-ce que les gens voulaient, aux employeurs, de ne pas avoir joué cette carte du chômage partiel ?
Il y en a qui ont effectivement décidé de tourner le dos à la saison pour ça, parce qu'ils se sont sentis un peu floués. Enfin voilà. Mais pour autant, aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on fait en sorte que les personnes qui sont là, ils travaillent aussi sur les emplois disponibles sur le
l'État
territoire.
L'État, quand même, a été au rendez-vous
un
moment sur le chômage partiel. Parce que je crois que c'était la première fois où un employeur pouvait prendre quelqu'un à la saison et le mettre dès la première minute où il a un chômage partiel, qui n'était pas forcément le cas, mais là, mesure exceptionnelle. Il y a quand même eu, quelque part, certains employeurs n'ont peut-être pas joué le jeu.
Après, il y a le modèle économique aussi, hein. On n'est pas dans un modèle économique qui était ultra bénéfique. On n'était pas dans des... Le modèle économique de l'hôtellerie lourdaise, elle est aussi particulière, etc. Donc il y avait peut-être aussi des tensions qui ne permettaient pas de faire les choses à l'époque pour les employeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand bien même un employeur, il voudrait pouvoir proposer des meilleures conditions de travail, un logement, il faut-il encore qu'il puisse... on est sur des petits formats de... On n'est pas sur des grands groupes hôteliers, pas énormément sur notre territoire. Enfin, vous voyez, on est aussi dans
plutôt
des spécificités de type...
de l'hôtellerie familiale. Hein.
Mais oui, et effectivement, ça joue peut-être aussi sur la capacité qu'ont aujourd'hui ces employeurs de proposer les services que peuvent proposer le groupe Accor, ou j'en sais rien, qui sont des hôteliers qui ont des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a aussi tout ça. Il ne faudrait pas effectivement considérer que territorialement, il y a des spécificités qui font que les difficultés, elles sont aussi peut-être liées au modèle économique, à la fois du pèlerinage, enfin voilà, et de la façon dont fonctionnent aujourd'hui les hôteliers, et peut-être des difficultés ou des tensions qu'ils connaissaient même déjà en termes économiques avant l'arrivée de la crise Covid.
On parle effectivement aujourd'hui de cette maison du travail saisonnier. Vous me disiez que, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, à Saint-Lary, ça existe, cette maison de travail saisonnier existe depuis plus de 20 ans.
Oui, donc elle s'appelle le GIPE 65, le Guichet Initiative Pluriactivité et Emploi. Et effectivement, ça fait... elle existe depuis plus de 20 ans. Ça a été une initiative au départ de la commune de Saint-Lary, qui aujourd'hui est portée par la communauté de communes, et qui œuvre effectivement pour les saisonniers. Alors, qui aujourd'hui s'est adossée à une maison France Service, donc elle accompagne aussi dans toutes les démarches d'accès pour toutes les personnes du territoire, et pas seulement les saisonniers, mais à l'œuvre depuis longtemps sur la question de la saisonnalité. Ils ont créé à l'époque, qui fonctionne toujours, du logement saisonnier dédié par la commune. Mais aujourd'hui, même eux, ils rencontrent des difficultés à loger les saisonniers parce que, vous savez mieux que moi, sur des destinations où il y a du tourisme, il y a aussi beaucoup de meublés de tourisme, donc il y a moins de logements disponibles pour les gens à l'année. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus intéressant de louer.
Alors, ce qu'ils font à cette maison des saisonniers, il l'expliquait l'autre fois lors d'une table ronde, c'est qu'ils vont chercher les saisonniers, ils les amènent en bus de Narbonne au Forum de l'emploi de Saint-Lary pour voir les offres de la saison. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer prochainement à Lourdes ?
Alors, on le fait déjà, nous. Parce que depuis qu'on existe, les gens, d'ailleurs, ils nous identifient, donc ils nous contactent. Voilà. Alors, oui, sauf qu'il va falloir les loger, ces personnes-là. Donc, on va être toujours dans la même problématique. Des profils, on peut en avoir, effectivement, mais c'est des personnes à qui il va falloir proposer, en plus du travail, du logement. Et effectivement, nous, on sait sur nos territoires, on n'a pas non plus un modèle de saisonnier où la majorité des saisonniers sont des gens qui naviguent entre la saison d'hiver, la saison d'été. On en a, mais c'est un petit pourcentage des saisonniers qui, aujourd'hui, notamment, sont en vallée. Aujourd'hui, on a plutôt des saisonniers qui sont installés sur le territoire. Et nous, l'enjeu quand même, pour notre territoire qui connaît démographiquement des difficultés, ou on va dire qu'il y a plutôt une baisse de la démographie, c'est l'enjeu de faire revenir des gens qu'on va installer à l'année. Et pas forcément des gens qui vont s'installer et repartir, même si ça fait toujours partie, dans les saisonniers, d'un choix et d'un mode de vie qui peut être celui choisi par certains saisonniers.
Vous parlez du problème du logement. Est-ce que Airbnb est un frein ? On sait que beaucoup de gens qui ont des appartements vacants, aujourd'hui, préfèrent, au lieu de les mettre à location à l'année, préfèrent les morceler et les mettre sur Airbnb, où les profits sont plus intéressants.
Sur les vallées, effectivement, quand vous avez 80% des volets qui sont fermés à Cotteray, c'est parce que vous avez l'attrition des résidences secondaires et des meublés de tourisme. Donc effectivement, ça a une influence sur le logement disponible. C'est pour ça qu'il y a des démarches en cours. Vous savez qu'il y a des nouvelles, on va dire, il y a des évolutions concernant la fiscalité sur la question des meublés touristes. Il y a plusieurs choses qui sont en cours sur minimiser l'intérêt que peut avoir de mettre en location saisonnière pour proposer plutôt de la location à l'année. Il y a tout un travail au niveau national qui est engagé par rapport à nos territoires qui sont pas forcément considérés comme zones tendues, mais le Pays Basque est allé jusqu'au bout de la démarche en disant il n'y aura pas une location saisonnière sans qu'il y ait un logement à l'année. On voit bien qu'aujourd'hui, sur des territoires touristiques, la problématique, c'est qu'il faut accueillir les touristes pour continuer à fonctionner, mais il faut pouvoir aussi permettre aux gens de s'installer sur le territoire et d'y vivre. Voilà. Et ça, c'est effectivement des choses qu'on constate comme étant... Mais les élus en sont conscients. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont en cours sur les vallées, notamment. Cotteray, Luce, Argelès sont en train d'avoir des projets de création de logements dédiés pour les saisonniers, notamment.
Il y en a aussi à Lourdes.
Alors, il y a des initiatives, effectivement, qui ne sont pas des logements encore aujourd'hui spécifiquement fléchés saisonniers, mais qui visent à pouvoir accueillir de la main-d'œuvre saisonnière.
Pour terminer cet entretien, Gaëtan, vous vouliez parler de la mobilité, la garde d'enfants pour les saisonniers aussi, parce que c'est aussi une problématique avec ces horaires qui sont un petit peu, 7 heures le matin, souvent il faut être là pour le petit déjeuner, pour aller dans les hôtels, le soir tard pour le repas, et quand on a des enfants, qui les garde, comment ? Je sais que les crèches, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de crèches, et la garde d'enfants est une vraie problématique, parce qu'on veut bien travailler, pour des fois pas cher, mais si on doit mettre tout l'argent avec une garde d'enfants, c'est compliqué.
Alors, c'est effectivement des enjeux. Nous, on travaille aussi sur l'idée que c'est bien d'aller chercher des saisonniers ailleurs, mais on a aussi des gens qui aujourd'hui sont sur nos territoires et peut-être éloignés de l'emploi, comme les bénéficiaires des minima sociaux. On travaille, nous, avec les réfugiés aussi, donc les bénéficiaires de la protection internationale, sur comment ces personnes qui sont sur le territoire, qui n'accèdent aujourd'hui pas à l'emploi saisonnier, pourraient y accéder comme un levier d'insertion, c'est-à-dire un premier accès à l'emploi, ou finalement une découverte d'un emploi qui pourrait être pérenne, il va falloir accompagner ces personnes qui ont souvent des freins périphériques. Donc, vous le disiez, la mobilité. Aujourd'hui, on sait peut-être que demain, les logements pour les saisonniers de la montagne, il faudra peut-être les avoir plutôt à Lourdes, mais favoriser le fait assez facilement de faire Lourdes-Cotteret. Aujourd'hui, vous le faites en bus, c'est très difficile, ou les horaires ne correspondent pas. Enfin, voilà. Il y a effectivement tout un travail à engager pour faciliter les mobilités sur notre territoire et permettre effectivement plus facilement aux gens de s'installer là où il y a de la place et de pouvoir effectivement se rendre sur leur lieu de travail. La garde des enfants, c'est la même chose. Souvent, dans les bénéficiaires du RSA, on peut avoir des familles monoparentales, une femme qui est seule avec ses enfants. Et bien, la question de pouvoir faire garder ses enfants des moyens, ça va être souvent un frein. Alors, il y a des aides. Souvent, elle n'en a pas connaissance qui vont lui permettre effectivement de pouvoir, et ce sera pas forcément plus coûteux que d'aller travailler, le travail sera toujours plus rémunérateur, mais il faut l'accompagner effectivement pour trouver le bon mode de garde et celui qui sera correspondant. Et on sait qu'on a du travail, et le travail est engagé avec les CAF, hein, parce que la CAF, ce qu'on appelle les conventions territoriales globales qui travaillent sur les besoins et les services aux familles sur les territoires, sont un enjeu majeur sur le développement de solutions de garde. Vous savez que dans la nouvelle loi sur le plein emploi, on y a mis aussi la question de la garde des enfants, en tout cas de pouvoir effectivement faire en sorte qu'on mette des solutions, parce qu'on sait très bien que c'est un frein. Donc nous, par exemple, on est en train de travailler, notamment pour proposer une garderie solidaire. Donc c'est un projet qu'on porte de façon innovante avec un financement du futur pacte des solidarités, et qui nous permet de tester une garderie solidaire qui va se passer sur Lourdes le samedi après-midi, deux samedis par mois, pour permettre déjà un répit à des familles monoparentales qui, quand elles sont seules, elles n'ont pas de temps forcément pour elles. Donc pouvoir avoir du temps pour ces familles, accompagner aussi les parents, détecter s'il y a d'autres besoins avec ces familles et travailler avec l'ADMR. On le fait avec l'ADMR d'ailleurs, pour pouvoir voir si ces besoins-là nécessitent d'autres interventions et pourraient être... Donc on est aussi dans ce lien à la parentalité, parce que c'est important pour nous, l'UDAF, puisque ça fait partie des choses qu'on porte aussi, de pouvoir être innovant sur ces réponses-là et proposer des choses, tester des choses concernant ces éléments-là.
La garderie d'enfants, c'est avec l'ADMR, et puis vous me disiez à Massat aussi le club des 6 à Lourdes.
Voilà, c'est ça. On le fera effectivement, c'est prévu que ça se fasse au tiers-lieu à Massat, puisqu'ils ont une partie du local qui est disponible désormais, vous savez, l'ancienne épicerie, et qui va être convertie aujourd'hui. Et l'idée, c'est aussi que ce tiers-lieu, il est inclusif. Il travaille avec des personnes en situation de handicap, vous savez, ou avec des personnes âgées. Il y a plusieurs colocations dessus. L'idée, c'est que ce soit aussi un lieu repère où les personnes, par un tiers associatif, puissent accéder à d'autres informations. C'est aussi donner de l'information aux familles, pouvoir accompagner vers l'emploi, mais accompagner peut-être vers d'autres démarches qui peuvent être importantes pour les familles qu'on recevra dans cet cadre-là.
Et pour les valets, il y a ce bus de service aux familles aussi.
Alors, on travaille effectivement sur une expérimentation. Donc, c'est un projet qui sera coporté par l'UDAF des Hautes-Pyrénées et la CAF, qui est au tout démarrage. On attend. L'idée, c'est de mettre en place effectivement. Et alors, on a un financement européen pour ça, parce qu'on travaille avec un financement du POCTEFA sur comment on ramène du service dans ces territoires valéens, de montagne ou ruraux, qui permettent aux gens d'y rester. Ce qu'on l'a dit, l'intérêt, c'est effectivement d'engager les gens, de pouvoir le faire rester. Mais s'il n'y a pas de service, ils ne restent pas, les gens, dans le territoire rural. Donc, comment on permet aussi, y compris à des personnes fragilisées, je suis âgée, je suis en situation de handicap et j'ai besoin de rester, j'ai envie de rester sur ce territoire, comment si j'amène le service et je développe des services, je peux y rester. Et du coup, je peux rester dans ce territoire et je peux peut-être accueillir un jeune en colocation dans mon logement parce que j'en ai un. Enfin, on travaille sur ces éléments-là aussi.
C'est étonnant ce que vous dites, parce que ça résonne, effectivement, tous ces services qui manquent cruellement, peut-être qu'il faut mettre en place, peut-être qu'on s'en aperçoit que vraiment le Covid a été révélateur sur tous ces manques, ou cette façon de ces services qui manquent aussi, on peut s'en apercevoir aussi pour la médecine. Parce que les Hautes-Pyrénées n'est pas forcément, ne fait pas rêver tous les médecins de France qui voudraient s'installer dans un département comme le nôtre. Parce que s'ils viennent, ils viennent avec une famille, ils viennent avec une épouse et qu'il faudrait trouver du travail. Vous l'avez dit, l'emploi, c'est beaucoup d'emplois saisonniers. Quand on est dans une zone de tourisme, on est plutôt sur de l'emploi précaire, saisonnier, que sur de l'emploi à l'année.
C'est vrai. Donc, effectivement, sur la question de la santé ou d'autres services, alors même si on a des stations thermales, donc on a des médecins quand même sur les territoires, mais effectivement, comment on fait en sorte que ces médecins puissent vivre tout au long de l'année, parce qu'effectivement...
On a une vraie problématique qui arrive, regardez tous les gens qui arrivent aujourd'hui, il y a des médecins qui sont partis à la retraite. Moi-même, là, le mien va partir à la retraite. Je cherche un nouveau médecin, alors que je suis là à l'année. J'ai du mal, et j'imagine quelqu'un qui arrive sur le territoire pour travailler et qui se dit, quand il appelle le médecin, non, je ne prends pas d'autres personnes parce que je suis full, je suis complet. Et ça devient problématique, là. Parce que vous avez aussi, et surtout si on a une famille avec des enfants, on veut aussi trouver des services. Quand on arrive, des services, au moins un médecin, si on est malade, parce qu'aujourd'hui, quand on se fait refuser, En gros, urgences, mais on sait aujourd'hui que les urgences, ce n'est pas la solution à tout.
Alors, on a quand même le dispositif Happy Santé hein, qui œuvre sur ces questions-là, sur l'accueil des médecins, de faire venir, etc., qui travaille un petit peu sur l'attractivité. On est un peu dans la même veine. Hein. C'est aussi notre travail, travailler sur l'attractivité de notre territoire pour permettre l'installation. Mais effectivement, ça va être l'enjeu. Vous disiez permettre aux gens de vivre quand le travail est saisonnier. Nous, le travail, c'est de dire il y a de la saisonnalité, mais comment on est plus réactif. Comment on travaille dans la saison, mais peut-être on va avoir un autre métier. Peut-être on peut être entrepreneur à côté. Peut-être on peut avoir une activité différente. Peut-être on n'a pas envie d'être forcément serveur toute l'année ou travailler en hôtel toute l'année. On peut avoir très bien un travail dans l'hôtellerie et restauration une partie de l'année et faire un métier complètement différent le reste de l'année. Parce que c'est aussi dans la diversité, la polyvalence qu'on arrive à conserver les personnes, si vous voulez, et à faire en sorte de leur trouver un équilibre. Et on voit bien que les personnes sont aussi en demande d'une polyvalence, d'une plus réactivité, de choses différentes à faire, de choses pas forcément répétitives. Donc c'est à nous, vous l'aviez évoqué Gaëtane, quand vous parliez de la montée en compétences, de travailler avec les personnes sur leurs projets. Et je pense que dans l'artisanat, il y a plein de choses aussi qu'on peut construire et qu'on peut faire et à développer sur nos territoires qui vont permettre aussi de rendre notre destination plus attractive.
La maison du travail saisonnier, c'est à Lourdes. On vous retrouve à France Service, à la maison France Service, hein, en face du lycée Collège Peyramale, pour faire simple, là où il y avait Pôle emploi à l'époque.
Hein. C'est ça, voilà. Tout à fait.
Merci beaucoup hein, Marion Olivier, vous êtes en charge d'ailleurs de cette maison des saisonniers. La porte vous est ouverte si vous avez des besoins de recrutement, des annonces à faire, des mises au point. On est là aussi pour peut-être donner la parole. Merci hein, à Gaëtane.
Oui, merci.
Puisque c'est elle qui a organisé cette émission. L'UDAF des Hautes-Pyrénées, des fois des structures qu'on connaît de nom mais qu'on ne connaît pas vraiment. Alors si les gens ont des difficultés ou veulent avoir des renseignements, un guichet unique, voilà ce guichet unique qui permet, vous essayez de, là, sur une seule personne, vous donner tous les renseignements pour aiguiller les gens vers les bonnes portes, les bonnes informations.
Tout à fait.
Merci beaucoup Marion Olivier. Et puis on se retrouve peut-être prochainement. Merci. Au revoir.
L'heure de pointe en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Gaëtane Rohr, Philippe Subercase.